Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Nicolas Brousse.
Bienvenue à tous pour votre émission interactive. Dans un instant, les réponses à vos questions avec les journalistes des divers services de RFI et nos experts. Et dans une demi-heure, puisque le vendredi c'est permis, c'est la libre antenne. Vous faites le programme, vous êtes les rédacteurs en chef de l'émission, vous choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez réagir. Et pour cela, vous nous appelez bien sûr 33 9 693 693 70. Vous nous écrivez par mail appel@actu.rfi.fr. Vous nous contactez également via les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Appel sur l'actualité, nous y sommes. Tout de suite donc, place à vos questions. Vous souhaitez que l'on prenne le temps d'approfondir un sujet que vous avez entendu traiter sur l'antenne, c'est le moment. Et c'est ce qu'a fait par exemple Davy qui nous appelle de Libreville. Bonjour Davy.
Bonjour Nicolas, ça va ?
Bien, très bien, vous êtes en direct avec nous, donc on est évidemment content de vous avoir. Vous avez des questions sur la situation en Libye ?
Oui, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et bonjour à Ariane Gomer dans ce congé. Nicolas, depuis, l'intervention militaire en Libye provoque de fortes tensions dans le pays. Alors, depuis l'intervention militaire, quelle est la relation entre le gouvernement d'Union nationale et le Parlement? Après l'intervention militaire, comment la Libye peut-elle retrouver la paix sans éviter de retomber dans le chaos de 2011?
On va essayer de répondre à ces questions. David, je réponds déjà à cette question que vous êtes beaucoup à nous poser aussi. Juan Gomez, effectivement, est en vacances, mais c'est promis, il revient dans 2 semaines. Ça, c'était déjà pour assurer un nombre d'auditeurs et d'auditrices. On va parler de la Libye avec Ouda Ibrahim. Bonjour, Ouda.
Bonjour, Nicolas.
Du service international de RFI. Alors, c'est un dossier assez complexe que vous suivez pour nous, ce dossier qui est la Libye. Parlement et gouvernement d'Union nationale ne parlent globalement jamais d'une même voix.
Jamais, parce que c'est très compliqué. On va essayer d'expliquer et de donner une résumé des choses. D'abord, permettez-moi de revenir un peu au passé pour mieux vous faire comprendre le présent en Libye. Comment est né le gouvernement d'Union nationale et pourquoi ces divisions qui se multiplient? Le gouvernement d'Union nationale est né suite à l'accord politique qui a eu lieu à Sriraat, au Maroc, le 17 décembre 2015. Cet accord était conçu sous l'égide des Nations Unies, représentée par leur envoyé spécial en Libye, l'Allemand Martin Kobler. Ce gouvernement s'est installé finalement à Tripoli le 30 mars 2016. L'accord était imposé par les divisions et surtout la présence à Tripoli des milices composées d'ex-révolutionnaires qui se sont battus dans cette ville pendant 2 ans. Les milices de Misrata se sont unies avec des milices extrémistes qui dépendent d'Al-Qaïda venues de Benghazi et de Derna dans l'est du pays. Et dans cette ville, ils ont essayé d'imposer leurs lois. Ils se sont unis aussi avec des milices locales, toutes petites, parfois des groupes qu'on ne connaît pas leur nom. Et finalement, ils sont entrés en combat avec les milices des Intan, présentes à Tripoli depuis 2011, depuis la révolution. Cette coalition donc a imposé sa loi dans la ville et les appels perpétrés de la société civile, du gouvernement provisoire à l'époque et du Parlement pour sortir les milices de la ville n'ont pas trouvé écho chez les chefs de ces milices. Très vite, les pratiques, le climat d'insécurité et le combat entre ces coalitions à tendance islamique et qui s'oppose à Tripoli, donc aux milices de Zintan, a fait que le Parlement a quitté Tripoli. Il est parti s'installer dans une ville de l'Est qui est la ville d'Al-Baïda, à Tobrouk, effectivement, et le gouvernement s'est installé à Al-Baïda.
Alors, on va essayer de comprendre pourquoi les choses vont aussi mal entre le Parlement et le gouvernement suite à la décision de récupérer la ville aux mains de l'État islamique. Pourquoi on n'est pas d'accord entre le Parlement d'un côté et le gouvernement de l'autre?
Alors, l'accord de Sriraat qui a été signé au Maroc, et je signale aussi qu'il y avait le chef de groupe parlementaire de Tobrouk qui était présent et qui ont signé cet accord.
Donc, a priori, on devrait s'entendre.
A priori, mais le problème, c'est que le gouvernement d'Union nationale a voulu aller plus vite et donc au lieu de créer une armée nationale, une police nationale et intégrer des éléments de ces milices dans l'armée et dans la police, comme c'est dit dans l'accord. Ils ont décidé d'aller avec ces milices combattre le I à Sirte. Et c'est ça qui a créé le plus grand problème entre le Parlement de Tobrouk et le gouvernement d'Union nationale soutenu par la communauté internationale. Ce qui fait aujourd'hui que, au lieu d'avoir 100 parlementaires qui étaient prêts à signer l'accord, on a pratiquement vraiment un nombre très très limité.
Alors pour revenir à la question de notre auditeur, depuis l'intervention militaire, comment se déroule cette relation entre le Parlement et le gouvernement d'Union ?
Alors, déjà avant la signature, avant l'arrivée de ces frappes, il y a eu des problèmes. Par exemple, pourquoi c'est ces milices-là qui vont combattre le I à Sirte et pas l'armée nationale libyenne, hein. Deuxième chose, pourquoi le gouvernement d'Union nationale signe des accords avec des milices? Et le dernier exemple, c'est l'accord autour du pétrole et des champs pétroliers signé avec une des milices du centre du pays où il y a le plus de champs de pétrole. Donc tout ça, le Parlement de l'Est s'oppose. Et puis les divergences se multiplient tous les jours. Aujourd'hui, c'est presque le chemin de non-retour entre le Parlement et le gouvernement d'Union nationale, à tel point que le frère musulman dans le pays appelle à nouveau à des élections. Et je rappelle que les milices sont entrées à Tripoli en 2014 suite aux élections qui ont eu lieu et qui ont amené des laïcs dans le Parlement. La majorité, la coalition la plus grande aujourd'hui dans le Parlement libyen, ce sont des laïcs.
Donc c'est un dossier qui, on l'entend encore, est extrêmement compliqué. Je vous rappelle qu'on avait fait un débat sur la question cette semaine, un débat à réécouter quand vous le voulez sur RFI.fr. Merci beaucoup, Ouda. Une dernière précision.
Une dernière précision, c'est que les autorités de Tripoli et de Tobrouk face aux Libyens sont vraiment dans l'embarras parce que le Libyen considère que c'est de l'ingérence, les Français, les Britanniques, les Américains, les Italiens, et que ça n'a pas été voté et c'est illégal. Et ils demandent à tous les côtés vraiment d'enlever les armes des mains des milices.
C'est ce que nous ont dit pas mal d'auditeurs lors du débat. Merci beaucoup. C'est un autre volet de ce dossier, un volet égyptien, sur lequel veut revenir Delvi, qui est en ligne de Pointe-Noire. Bonjour Delvi.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Bienvenue, on écoute vos questions.
Sur sa page Facebook, l'armée égyptienne a annoncé la mort du chef du groupe État islamique, Abu Dawah al-Ansari, dans le Sinaï. Cette annonce affaiblit-elle le groupe État islamique dans cette région? L'Égypte est-elle en voie de reprendre le contrôle de la région du Sinaï?
Alors on va avoir la réponse de Qatar Aboudia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et professeur à l'Université Paris-Sud, directeur du Conseil Géopolitique Perspective. C'est vrai, hein, ce que nous dit Delvi, là, c'est l'armée qui a annoncé ça directement sur sa page Facebook. Est-ce qu'on est déjà certain de la mort du chef du groupe État islamique dans cette région du Sinaï?
On est certain, plusieurs sources concordantes confirment que l'armée égyptienne, par une opération qualitative engageant des forces spéciales et de l'armée de l'air égyptienne, cette opération a permis l'élimination de Abu Dawah al-Ansari, le chef local de Daesh, le chef de ce qu'on appelle Ansar Bayt al-Maqdis, les partisans d'Al-Quds dans cette péninsule très déstabilisée de Sinaï depuis l'éviction du président Morsi en Égypte. C'est une opération donc réussie. C'est un gain pour les forces égyptiennes. Ce n'est pas la fin de la guerre contre Daesh. Ce n'est pas la stabilisation de la zone. Mais c'est quelque chose quand même. C'est un tournant dans la guerre contre le terrorisme dans cette zone frontalière entre l'Égypte, Gaza et Israël.
Est-ce que donc c'est un premier signe, une première étape pour l'Égypte pour qu'elle reprenne le contrôle de cette région? Vous dites que la guerre n'est pas terminée entre ces groupes islamistes et le pouvoir égyptien?
Vous savez que cette zone, plus ou moins depuis 2009 et depuis les développements à Gaza, Et c'est une zone plus ou moins de non-droit, une zone grise. Et avec l'arrivée des islamistes au pouvoir en Égypte, puis leur éviction, les plus radicaux ont fait de cette zone une tribune ou un foyer pour pouvoir harceler le pouvoir égyptien. Ils n'ont pas pu faire comme dans la décennie noire en Algérie, suite à l'intervention de l'armée, une guerre totale, un terrorisme très actif dans toute l'Égypte, comme ça a été le cas en Algérie, mais ils ont préservé cette zone de Sinaï. Donc, je pense que l'armée et les forces égyptiennes ont réalisé, comme je dis, un coup décisif, mais ce n'est pas quelque chose de fatal. Je pense que ces groupes gardent une bonne puissance de nuisance pour la prochaine période.
On suivra bien évidemment les prochains développements dans cette région. Merci beaucoup, Katara Boudiab, de nous avoir répondu. Politologue et professeur à l'Université Paris-Sud, directeur du Conseil Géopolitique Perspective. Merci d'avoir répondu à Delvi, qui nous appelait de Pointe-Noire. Sans plus attendre, nous rejoignons Blaise, qui est à Bamako. Bonjour, Blaise.
Bonjour, Nicolas. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI, la Radio Mondiale.
Vous souhaitez que l'on revienne sur l'affaire Adama Traoré?
Tout à fait, Nicolas. Suite à l'interpellation et la mort d'Adama Traoré en juin dernier en France, une première autopsie réalisée conclut à une infection cardiaque grave, alors qu'une seconde autopsie situera la mort par asphyxie. Comment expliquer cette contradiction? Et pourquoi l'État français, en dépit de cette contradiction, a refusé une autopsie supplémentaire?
C'est Simon Rosé du Service France qui va vous répondre. Bonjour Simon.
Bonjour Nicolas, bonjour Blaise.
Adama Traoré a été inhumé dimanche au Mali, mais Bamako n'interviendra pas auprès de la France puisqu'il n'était pas malien, c'est ce qu'ont expliqué les autorités. Interpellé par la famille qui se pose, comme notre auditeur, beaucoup de questions. Il y a eu effectivement deux autopsies qui n'ont pas abouti aux mêmes conclusions. Comment est-ce possible, Simon?
Bon bah, tout d'abord, je suis pas médecin légiste, donc c'est dur et compliqué de répondre à la place des deux médecins qui ont pratiqué les autopsies. Mais on peut quand même affirmer une chose. À la suite de la mort d'Adama Traoré, il y avait une question qui se posait. Est-ce qu'il a été victime de violences et de coups lors de cette interpellation? Et en fait, les deux autopsies qui ont été pratiquées avaient pour objectif de répondre à cette question. Et sur ce point précis, les deux médecins légistes, en fait, ils arrivent à la même conclusion. Hein. C'est bien mentionné dans les deux rapports d'autopsie. Il n'y a eu ni coups ni blessure sur la dépouille d'Adama Traoré, seulement petite contusion ou abrasion au niveau du coude, mais pas de violence.
Donc a priori, pas de bavure.
Pas de bavure. Ils sont également d'accord sur la cause de la mort. C'est une asphyxie. Les deux rapports d'autopsie mentionnent l'asphyxie. La seule chose, c'est que c'est le procureur de Pontoise donc, qui est en charge de l'enquête sur ce dossier qui, en fait, n'en a jamais fait état quand il a relayé et quand il a fait ses conférences de presse pour relayer les conclusions des rapports d'autopsie. Donc, mais les deux rapports les mentionnaient bien. Du coup, la grande question qui se pose en fait dans cette affaire, c'est de savoir ce qui a provoqué cette asphyxie. Cela peut être une infection. Comme Blaise l'a rappelé, elle est mentionnée dans le premier rapport. Hein. Le médecin parle de lésions d'allure infectieuse au niveau du foie et des poumons. Mais en fait, il ne dit rien sur la gravité de cette infection. Là encore, c'est le procureur de Pontoise qui a vraiment décidé de mettre cette infection en avant. Il y a également l'autre hypothèse, et là c'est celle de la famille d'Adama Traoré, cette asphyxie aurait été provoquée par la méthode qui a été utilisée par les gendarmes lors de son interpellation, c'est la méthode qu'on appelle de l'écrasement thoracique, qui est une technique d'arrestation très décriée, car dangereuse, puisque comme son nom l'indique, hein, l'écrasement thoracique, là ce sont les gendarmes qui utilisent leur poids pour en fait maîtriser la personne qu'elle souhaite interpeller. Là, en l'occurrence, ils étaient trois pour interpeller Adama Traoré. Trois à utiliser tout leur poids, à se mettre sur la personne pour le bloquer. Et ça, on l'a appris de leur bouche même quand les PV de leur audition à la suite, les procès-verbaux de leur audition à la suite de l'enquête interne qui a été diligentée après la mort d'Adama Traoré ont en fait été révélés par la presse.
Donc ça pourrait être la raison de l'asphyxie. Il y a en tout cas beaucoup de doutes. Pourquoi, Simon, face à ces doutes, la justice française a-t-elle refusé une autopsie supplémentaire? Est-ce qu'avec cette autopsie, on ne pourrait pas véritablement savoir ce qui a provoqué l'asphyxie?
Non, pas vraiment, parce que c'est vraiment peu probable qu'une troisième autopsie en fait apporte des éléments différents par rapport aux deux premières sur la cause de l'asphyxie. En fait, l'important là, c'est d'attendre les résultats des analyses toxicologiques qui ont été réalisées sur le corps d'Adama Traoré pour y voir plus clair. On commence d'ailleurs à les connaître. Hein. On sait désormais qu'Adama Traoré n'avait pas bu d'alcool ni pris de médicaments le jour de sa mort, mais qu'il avait fumé du cannabis quelques heures avant. Et là encore, c'est très flou, puisque en fait, il y a eu deux analyses toxicologiques qui ont été faites, une par prélèvement sanguin et d'échantillons sur le corps, et une autre sur le, puisque Adama Traoré a vomi lors de cette interpellation, et une autre sur, qui a été réalisée donc sur ce vomi. Et la famille n'a jamais eu connaissance du résultat disant que Adama Traoré avait fumé du cannabis, seulement le procureur. Donc là encore, la famille se pose des questions sur la pourquoi le procureur dit ça alors que nous, on n'en a pas connaissance. Donc il y a encore c'est dans la communication du procureur, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu étranges. Il ne mentionne pas l'asphyxie, il met l'emphase sur l'infection dont Adama Traoré aurait souffert, alors que le médecin, dans son rapport, le fait pas forcément.
La cause.
Donc il reste encore pas mal de questions auxquelles il faut répondre et des analyses, on attend encore des résultats d'analyse toxicologique. Et puis sur la raison de cette troisième autopsie, pourquoi elle n'a pas eu lieu, donc elle a été refusée par la justice française, la famille n'a pas fait appel de cette décision, puisque au bout d'un moment, bah, il fallait bien inhumer le corps d'Adama Traoré, il est mort le 19 juillet, on le rappelle, il n'a été inhumé que dimanche dernier au Mali, ça fait plus de 3 semaines, c'est long pour une famille en deuil. Et cette troisième autopsie n'aurait pas vraiment apporté de réponse sur les causes de, la, de l'asphyxie qui a provoqué la mort de, d'Adama Traoré.
Merci Simon Roset d'avoir répondu à Blaise qui nous appelait de Bamako. Il nous reste une dernière question et nous allons nous rendre à Cotonou, rejoindre Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour Nicolas, bonjour RFI.
Vous, vous inquiétez du virus Zika, on vous écoute.
Ah oui, j'ai appris évidemment sur les ondes de RFI que le virus Zika se développe dans certains États aux États-Unis. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que les autorités sanitaires réagissent face à ce virus. Je voudrais ensuite savoir s'il y a des risques de propagation dans d'autres villes aux États-Unis. Et enfin, quelles sont les mesures prises par les autorités pour protéger les touristes?
Et c'est évidemment sur les ondes de RFI que nous allons vous répondre avec Carlotta Morteo du service international. Bonjour Carlotta.
Bonjour Nicolas, bonjour Mathieu.
Assez peu de personnes touchées pour l'instant aux États-Unis, mais l'inquiétude est bien de mise au minimum en Floride. Alors cette question de Mathieu, la première, comment ont réagi les autorités sanitaires?
Alors je dirais déjà qu'elles ont réagi vite et de manière assez organisée pour deux raisons. La première, c'est que depuis toujours la Floride est un état infesté de moustiques, donc ils ont un certain savoir-faire en matière d'éradication. Et puis d'ailleurs, ils ont d'ailleurs réussi à, il y a quelques années à stopper des épidémies de dengue et de chikungunya. Et puis deuxième raison, parce que le centre de contrôle et de prévention des maladies avait alerté dès le début de l'année sur le risque Zika en Floride. Il avait préparé une feuille de route de 60 pages pour aider les services municipaux et hospitaliers à gérer en urgence une épidémie de Zika.
Donc on n'a pas été pris au dépourvu sur la côte est américaine. Concrètement, du coup, quelles mesures ont été prises?
Alors déjà, en quelques jours, le nombre, pour bien voir, hein, le nombre d'agents municipaux chargés du suivi de la propagation des moustiques est passé de 12 à 100 personnes. Des agents qui ont fait du porte-à-porte pour diagnostiquer l'état de santé des habitants, voir s'ils manifestaient des symptômes du virus Zika. Ils ont distribué des kits à tout le monde à base de sprays anti-moustiques, de pastilles larvicides à diluer dans l'eau et de préservatifs, vu que le Zika se transmet aussi par voie sexuelle. Et à ce jour, ce sont 22 personnes qui sont infectées dans ce quartier relativement petit, hein, seulement 2 km² du centre-ville de Miami. Aucune femme enceinte, mais les agents leur ont quand même recommandé de faire gratuitement des tests plus poussés à l'hôpital pour bien s'assurer qu'elle n'était pas atteinte.
Et comme c'est l'efficacité américaine, on a aussi fait des largages aériens. Quoi.
Voilà, alors les largages aériens, ça a le mérite de tuer les moustiques adultes hein, qui se trouvent dans le passage de l'avion. En revanche, ça ne tue pas les moustiques qui sont cachés dans les recoins ou dans les maisons. Et surtout, ça n'a aucun effet sur les larves de moustiques qui se reproduisent dans l'eau stagnante. Vous savez, il suffit d'un bouchon de bouteille rempli d'eau, donc un petit bouchon de bouteille, pour que se développent 300 larves de moustiques. Donc on comprend bien pourquoi la ville a investi 300 000 dollars en campagne d'affichage pour rappeler aux habitants qu'ils doivent se débarrasser de la moindre goutte d'eau qui traîne dans leurs éviers, dans les coupelles sous leurs plantes, dans les recoins de leur jardin.
Alors avec ces mesures et en 30 secondes, est-ce qu'il y a un risque tout de même de propagation dans le reste des États-Unis?
Alors se propager, il semblerait que non, vu les efforts qui ont été faits à une août. Par contre, qu'une autre contamination ait lieu ailleurs, c'est tout à fait possible. L'espèce de moustique capable de transmettre le virus est présent dans 30 des 50 États des États-Unis, partout où il fait chaud et humide. Il suffit donc qu'une personne infectée lors d'un voyage à Wynwood ou dans un pays d'Amérique latine ou des Caraïbes rentre aux États-Unis, se fasse piquer par un moustique inoffensif local qui devient à son tour porteur du Zika, et ce moustique s'en va alors piquer d'autres personnes dans le voisinage.
Merci beaucoup Carlotta Morteo, à tout de suite pour la suite et le débat.